VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Conflit en Libye, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, affirme être décidé à poursuivre son offensive pour conquérir Tripoli, rejetant ainsi l'initiative de sortie de crise proposée par son rival politique Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale qui est assiégé dans la capitale libyenne. Dans un entretien avec deux sites d'information libyens, publiés dans la nuit de mercredi à jeudi, le maréchal Haftar a déclaré que son offensive, lancée début avril, ne s'arrêtera pas avant que tous ses objectifs ne soient atteints. Les forces du général sont bloquées depuis plusieurs semaines aux portes de la capitale libyenne et les positions sont figées. Mais Khalifa Haftar se dit confiant dans la victoire et la possibilité d'une phase politique après les combats. Contestation au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la chute de l'ex-président Omar al-Béchir le 11 avril, a demandé à la coalition d'opposition de revenir à la table des négociations sans poser de conditions. Des conditions qui ont été dans leur quasi-totalité rejetées par les militaires jusqu'à présent. Alors que les négociations sont au point mort, la résistance civile tente de se réorganiser. De Khartoum, notre correspondante Patricia Huon.
Il est 19h30, les premiers chants retentissent. À Omdurman, dans la banlieue de Khartoum, une quinzaine de personnes se mettent en marche à la lumière des téléphones portables. L'association des professionnels soudanais a appelé à reprendre les manifestations de nuit dans les ruelles. Le mot d'ordre semble se répandre à travers la capitale, de bouche à oreille et par SMS, par l'intermédiaire des comités de quartier qui ont été créés pour assister le mouvement de protestation. Continuerons à faire vivre la révolution, ou nous mourrons, ou nous gagnerons nos droits, clament les manifestants au son des tambours. Des hommes, des femmes et des enfants rejoignent la procession qui passe devant chez eux. Le cortège grossit jusqu'à compter environ 300 personnes. Moins d'une heure plus tard, les gens se dispersent et rentrent chez eux. Tous disent qu'il ne s'agit que d'un échauffement pour avertir le pouvoir que leur détermination n'a pas été brisée malgré la répression. Face à un adversaire lourdement armé, le mouvement de contestation soudanais continue de prôner la résistance pacifique. Patricia Huon, Khartoum pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, vaste opération de ratissage des forces de défense et de sécurité après l'attaque attribuée à des djihadistes dans le nord du pays qui a coûté la vie à 17 personnes dans la nuit de mardi à mercredi. Les assaillants ont ciblé la localité de Bélé-Hédé dans la province septentrionale du Soum, a précisé le ministre burkinabé de la Défense Chérissi. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, fait le point.
L'attaque terroriste menée par un groupe d'individus non identifiés a été perpétrée contre la population de Bélé-Hédé, un village du département de Tongomaël dans le Soum. Une vaste opération de ratissage a été immédiatement déclenchée dans la zone par les forces de défense et de sécurité. Dans un communiqué rendu public dans la foulée, le ministre en charge de la défense a appelé la population à rester vigilante et à dénoncer tout comportement suspect. La province du Soum, à l'image de plusieurs provinces dans le nord et le Sahel, a connu plusieurs attaques meurtrières dont la dernière datait d'une semaine, avec le massacre de 19 personnes à Arabinda. La récente attaque survient au moment où l'opération militaire des forces de défense et de sécurité burkinabé, baptisée Ndofu, est en cours dans la région, à l'image de Tapuano qui a pris fin dans l'Est, afin de traquer et neutraliser dans cette région les forces terroristes dont l'action a causé au Burkina Faso plus de 300 morts, fait des milliers de déplacés et des centaines d'écoles fermées. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Violence au Mali voisin, la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, rapporte dans un document interne que les deux attaques attribuées à des éléments peu armés contre les localités de Yoro et Gangafani les 17 et 18 juin dans le centre du pays ont eu pour conséquence le meurtre de 41 membres de la communauté Dogon. Mardi soir, le gouvernement malien avait fait état de bilan provisoire officiel de 38 morts et de nombreux blessés. Selon le mot de l'ONU, daté de Mopti, chef-lieu régional dans le centre du pays, les attaques des 17 et 18 juin contre Yoro et Gangafani ont également entraîné le déplacement de 750 personnes vers la localité voisine de Dinagourou et d'un nombre indéterminé d'habitants vers le Burkina Faso voisin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, toujours en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a une nouvelle fois refusé de nommer à la tête du gouvernement le leader de la majorité parlementaire. Le chef de l'État entretient des relations difficiles avec son ex-premier ministre Domingos Simões Pereira. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Tout en reconnaissant que c'est votre parti qui détient la majorité au Parlement, je vous prie de bien vouloir proposer un autre nom pour occuper ce poste, a déclaré le chef de l'État bissau-guinéen. Pendant plusieurs semaines, pour justifier son refus, il avait avancé que le bureau de l'Assemblée nationale n'était pas constitué avant d'inviter lundi le PAIGC à lui proposer un nom. Le parti a désigné Domingos Simões Pereira, une proposition que le président a encore refusée. La crise entre les deux hommes, pourtant issus du même parti, a éclaté en août 2015 avec le limogeage de M. Pereira, qui était alors Premier ministre. Le président Vaz, qui a été exclu du PAIGC, a annoncé que l'élection présidentielle sera organisée le 24 novembre. L'annonce de cette date n'a pas débloqué le contentieux alors que le PAIGC et ses alliés contrôlent une majorité de 54 sièges sur 102 à l'Assemblée nationale.
Crise migratoire, Marcelo a 27 ans. Il est un immigrant originaire de la République démocratique du Congo qui fait partie des Africains qui ont choisi récemment de passer par l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le Mexique pour atteindre les États-Unis. Orzuma Compaoré l'a rencontré dans le cadre de notre série intitulée « Témoignages d'immigrants ». On l'écoute.
Oui, mon nom c'est Marcelo Kalouba. Je suis avec ma femme et mon enfant de 9 mois. Moi, je viens de Kinshasa. On avait fui à partir de l'Angola. On a passé de Vindouké, de Namibie, on a passé par ici. Je me suis retrouvé à partir de l'Équateur par avion. Et puis l'Équateur, j'ai fait la route avec les gens qu'on était nombreux d'autres nationalités. On a traversé la forêt et de l'Équateur, on a passé de Colombie, Panama, jusqu'on a trouvé d'autres chemins pour arriver ici. On passait les morts. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. S'il y a quelqu'un qui meurt, on allait faire quoi? On crée seulement les trous, on les met et puis les gens continuent la route. Il y a des amis qui ont laissé leurs femmes là-bas. Il y a aussi des bandits au cours de la route. Si tu ne donnes pas l'argent, tu risques de perdre sa vie. Le long de la rivière, de la forêt équatoriale et forêt d'Ariane, là-bas, ça se trouvait une rivière là-bas. Alors, au-dessus des rivières, ça des pierres. On traversait pour aller de l'autre côté. Ma femme était tombée dans l'eau. Elle était avec mon enfant au dos. Elle a glissé. Il est tombé avec l'enfant. J'avais cru qu'il allait mourir ou l'enfant pouvait mourir. Ça s'est passé presque 2 semaines. Mon enfant tombe malade, les fièvres, la diarrhée. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de l'aide. Quand on est arrivé là-bas au Panama, la vie s'améliorait un peu parce qu'il y avait l'aide des médicaments, l'aide de tout qu'on sort là.
Vous arrivez au Mexique, comment ça se passe?
Il y a beaucoup de familles ici qui étaient avant nous. Je me suis retrouvé là-bas à Acuna. Il y avait des gens qui traversaient la rivière. Moi aussi, je n'avais pas le choix parce qu'au Mexique, il n'y a pas d'aide médicale. On me parlait souvent que si tu traverses là-bas, à l'États-Unis, on aura de l'aide médicale. Et pour cela, je n'avais pas traîné beaucoup de temps parce que j'ai risqué de perdre ma fille. Et pour cela, on a traversé dans cette rivière là-bas à Acuna.
Après avoir traversé, vous êtes arrivé du côté des États-Unis. Qu'est-ce que l'immigration américaine vous a dit?
Elle nous a accueillis, elle nous a donné à boire de l'eau, elle ne nous a pas menacés. Ils ont enregistré les gens, ils ont donné les papiers pour arriver jusqu'ici à Saint-Antonio. Mais moi, je n'ai pas la famille ici, je ne connais pas l'anglais. Et pour cela, on avait choisi les mêmes. On est coincé ici parce qu'on manque l'argent du transport pour arriver là-bas au Maine.
Mais est-ce que vous avez reçu de l'aide de la ville de Saint-Antonio?
Actuellement, on dort dans l'église là. C'est seulement l'aide de Saint-Antonio. On mange là-bas.
Vous êtes prêt à recommencer la même chose?
Je ne peux pas recommencer parce que c'est difficile. On a passé des moments très difficiles là-bas.
Vos jeunes frères qui sont toujours à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Ce que je peux parler, je ne suis pas mort, je suis en vie, moi et toute la famille. Qu'ils gardent confiance en Dieu. Merci pour les prières qu'ils m'ont rendues. Pour cela, je suis en vie. Je suis dans les lieux très bons. Je sais que Dieu va faire pour avoir aussi les papiers ici à l'États-Unis.
Quel est votre plus grand rêve là aujourd'hui maintenant?
Et prendre les papiers, vivre et comme tout le monde qui vit ici. Mon rêve le plus important, c'est ça.
Marcelo, un immigrant originaire de la République démocratique du Congo, qui fait partie des Africains qui ont choisi récemment de passer par l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le Mexique pour atteindre les États-Unis. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.org. www.immigration.com.